plus jamais pu oublier, bien sûr,
et que nous ne devons pas oublier non plus. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes marqués par un caractère sacré. Le visage du Christ est imprimé en nous.
Parfois, bien sûr, hélas, par le péché, nous défigurons ce visage. Et nous avons besoin que d'autres nous aident à nous laver, à nous purifier. Bannissons à jamais le respect humain qui nous fait peur, du qu'en ira-t-on, et qui nous empêcherait de faire ce qui nous rendrait purs et agréables à Dieu. Que d'hommes ont pleuré dans les retraites fermées après une bonne confession. Ont pleuré de joie parce qu'ils ont retrouvé le visage de leur baptême. Ils se sont retrouvés enfants de Dieu propre. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Miserere nostri Domine.
Miserere nostri.
Que les âmes des fidèles répassent et retrouvent son Père. Septième station, Jésus tombe une deuxième fois.
Adoramus te Christe, benedice vos sacrés.
Le chemin est rude pour Jésus, déjà épuisé, et une seconde fois, il tombe. Il n'est pas tombé simplement de fatigue ou de faiblesse, mais encore de dégoût et de honte. Le poids du péché. Lui qui est le saint, l'innocent, il se sent revêtu de tous les péchés du monde et il doit les porter devant son Père pour les expier. Il y a de quoi trembler, il y a de quoi tomber. Ce matin, M. Abbé Laurenson nous a rappelé la gravité du péché que nous considérons souvent comme une bagatelle, comme une chose qui ne peut pas atteindre Dieu. Alors que le péché, c'est le plus grand des malheurs. Et nous vivons une époque où, en ayant perdu le sens de Dieu, on a perdu le sens du péché. Et on voit même plus la nécessité de demander pardon, pensant que Dieu ne voit plus rien du tout. On organise la vie, individuellement, familialement, politiquement, comme si Dieu n'existait pas. Comme si Jésus-Christ n'était jamais venu, n'avait rien dit. Comme si Jésus n'avait pas souffert, payé, cher, pour chaque péché des hommes. Sachons garder toujours les distances avec Dieu. La raison de cette deuxième chute, c'est la réitération de nos péchés. C'est que non seulement nous tombons, mais nous retombons souvent dans les péchés. Et donc c'est une exigence de plus pour nous relever et pour prendre les résolutions qui s'imposent afin de ne plus tomber en pensant à tout ce que cela a causé de souffrance à Jésus. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Miserere nostri Domine.
Miserere nostri.
Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Huitième station, Jésus parle aux femmes de Jérusalem.
Adoramus te Christe, benedice vos
sacrés.
Ce matin, dans l'Évangile, on nous a rappelé la ruine de Jérusalem. Jésus l'avait prédite quelques jours avant sa passion, quand étant en Béthanie et qu'un disciple faisait remarquer la beauté du temple, sa majesté, Jésus avait dit « Ne restera pas pierre sur pierre ». Une prophétie qui s'est réalisée 37 ans plus tard. Et ces femmes qui rencontrent Jésus sur le chemin du calvaire faisaient partie de celles à qui Jésus avait dit « Ne pleurez pas sur moi, mais sur vous-même et sur vos enfants, car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec ?» En doute, quand Titus a saccagé la ville et le temple, elles ont dû se rappeler cela. Jérusalem a traité le Christ avec mépris. Le Christ qui est venu chez lui, chez les siens. Lui qui avait été prophétisé pendant les siècles et qui a réalisé devant ce peuple toutes les prophéties et tout, et appuyé cela par des miracles éclatants. Lui, c'était le bois vert. Voilà comme ils l'ont traité. Et ces femmes étaient le bois sec. Quand Titus est arrivé dans Jérusalem, il a égorgé 1 million de Juifs, crucifié 100 000 d'entre eux, et les autres ont été dispersés à travers les nations païennes. Plus jamais Israël n'a eu sa terre, jusqu'il y a quelques années en arrière. Plus jamais Israël n'a pu reconstruire son temple. À sa place, il y avait dans la mosquée d'Omar. Il faudra attendre le jour où Israël reconnaîtra enfin le Christ comme le Messie. Et ça viendra, puisque saint Paul nous dit qu'ils se convertiront avant la fin du monde. Mais il ne faut pas pleurer sur le Christ, pleurer sur nous et sur nos péchés. C'est cela qui faisait pleurer la Sainte Vierge à la Salette, en voyant la situation du monde de l'Église, dont elle voyait les péripéties pour notre époque. L'Église connaîtra une crise affreuse. Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. Pour le vrai catholique qui considère la situation, c'est vrai qu'il y a de quoi pleurer. Mais pas pleurer sur le Christ, pleurer sur nous et sur nos péchés. Car si l'Église est réduite à cette situation, c'est à cause de nos péchés. Attention aux prophéties du Christ. Elles se réalisent toujours. Elles sont infaillibles. Veillons et prions. Nous ne savons ni le jour ni l'heure. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Misère nostri domine, que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. 9e station, Jésus tombe une 3e fois. Adoramus te Christe, benedicimus tutti. Dieu, disait Isaïe, en parlant du Christ durant sa passion, a voulu le briser par la souffrance. Et de fait, Jésus est écrasé par la justice. Et cette troisième chute reflète bien l'écrasement total. Presque au sommet du calvaire, Jésus est comme anéanti. Il va pourtant retrouver les ressources nécessaires pour se relever et aller jusqu'au bout, mais au prix de quelle souffrance? Et peut-être, on peut se poser la question de cette troisième chute, pourquoi? Est-ce que ça ne serait pas peut-être à cause de l'abandon de ses amis, de ses privilégiés, de ses apôtres, de de tant d'évêques aujourd'hui, de prêtres et religieux et religieuses, qui avaient promis par des actes solennels et publics qu'ils seraient toujours ses amis et qu'ils l'ont laissé pour être happé par le monde, l'esprit du monde, et pour finalement se retourner contre lui, contre son enseignement, pour devenir pratiquement des ennemis, des renégats, des traîtres. Oh, cette souffrance que le cœur de Christ doit ressentir, a dû ressentir à ce moment-là, en regardant à travers les siècles, tous ces traîtres, tous ces renégats, tous ces apostats, tous ces infidèles, tous ceux qui l'ont laissé, malgré les promesses solennelles qu'ils avaient faites. Oui, on doit prier pour la conversion du clergé. Le clergé aujourd'hui fait partie des gens à convertir. On doit prier pour la conversion du haut clergé, car le poisson ne pourrit toujours pas la tête. Les honneurs, ça passe vite. Plus on reçoit des honneurs sur la terre, plus on doit répondre ensuite au tribunal de Dieu. Et on tremble quand on pense à ce que beaucoup de princes de l'Église auront à répondre. Ils ont laissé entrer dans la maison les voleurs et les brigands qui ont tout saccagé. Seigneur Lefebvre a pu dire que le Vatican II, c'était un brigandage. Et de fait, on se rend compte, 30 ans après, que la maison est dévastée et que ça continue à descendre. Mais confiance, Jésus est toujours miséricordieux pour celui qui demande pardon. Et il veut même les plus grands pécheurs, même ceux qui sont élevés dans la hiérarchie, se repentent et reviennent. Comme disait Notre-Dame à San Damiano, que tous reviennent repentis à mes pieds, aux pieds de mon divin Fils, en parlant des prêtres, des petits et des grands, que tous reviennent repentis. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant
et à l'heure de
notre mort. Amen. Miserere nostri nomine.
Miserere nostri.
Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix.
Amen.
Dixième station, Jésus dépouillé de ses vêtements.
Adoramus te Christe, benedicimus sacrae te.
Via te santa crucento, benedictimo
tu. Voilà Jésus arrivé au sommet du calvaire, immédiatement on lui arrache ses vêtements. Il était venu sur cette terre dans une étable, pauvre. Et il va mourir maintenant en n'ayant même plus un habit. Et nous, pendant ce temps-là, nous nous attachons si souvent au confort, à tant de choses qui nous paraissent indispensables et qui sont en réalité souvent des choses qui nous conduisent au péché. Nous vivons une époque marquée par l'impureté sous toutes ses formes. Et l'impureté pénètre partout, dans nos cités, dans nos rues, dans nos familles, même dans les sanctuaires. Si on voulait vraiment être conforme aux prescriptions de l'Église, en particulier pendant l'été, on devrait expédier hors des églises pas mal de gens mal vêtus, d'une façon indécente, scandaleuse. Eh oui, quand on sait que l'Église, c'est la demeure de Dieu. Et qu'on ne se présente pas devant lui dans n'importe quelle tenue. encore retenu du corps, et surtout celle de l'âme, si votre âme est souillée par le péché, nous devons trembler. Rien d'impur n'entre au ciel. Et Notre-Dame à Fatima nous a demandé de prier pour les pécheurs dont la plupart, disait-il, vont en enfer à cause de l'impureté. Le remède, c'est justement le regard vers Jésus dépouillé de ses vêtements. Lui nous appelle à la mortification du corps, à vaincre nos passions, à ne pas nous laisser aller à ce qui est mal, et pour nous-mêmes, et par rapport aux autres, que ce soit n'importe quelle personne, ou que ce soit les membres de notre famille. Même le mariage exige la pureté, la chasteté. On ne fait pas n'importe quoi. Ma femme n'est pas à moi, ni mon mari à moi, il est à Dieu. Et Dieu demande par compte. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Onzième, Jésus est attaché à la croix.
Adoramus te Christe, benedicimus te.
La torture de cette crucifixion est inexprimable. On ne peut pas trouver les mots qu'il faut pour exprimer la douleur qu'a dû ressentir Jésus quand les clous se sont enfoncés dans ses mains, dans ses pieds. Ça a dû être quelque chose de terrible. Et ces saintes plaies du Christ, son cœur sera ensuite transpercé lui aussi, il en sortira du sang et de l'eau, exprime justement tout l'amour qu'il a eu pour nous. Et ces plaies, Jésus a voulu les garder dans sa résurrection, comme les marques justement de son amour pour nous, comme les preuves de son amour pour nous. Ce sont les stigmates, ce sont maintenant des plaies glorieuses, et il les a maintenant qu'il est au ciel. Elles sont toujours glorieuses. Et Jésus les présente toujours à son Père pour nous obtenir la rémission des péchés. Voyez-vous, Père, mes plaies. Voyez ce que j'ai souffert. Pardonne-leur. C'est pour eux que j'ai souffert tout cela. Sœur Marie Marchandon, qui avait eu la révélation des saintes plaies au couvent de la Visitation à Chambéry au siècle dernier, on nous dit que ces saintes plaies sont le trésor qui est offert à l'Église, dans lequel nous pouvons puiser des grâces sans fin en quelque sorte, parce qu'elles ont une valeur infinie, ces saintes plaies de Christ. Et vous aurez remarqué que nous n'aimons pas tellement regarder les saintes plaies, ni le Christ crucifié. On a presque tendance un peu à détourner notre regard de cela, parce que ça nous fait peur, ça nous inspire l'horreur, ça nous rappelle nos péchés. Il faut les regarder. Et il faut les offrir au Père. Justement pour obtenir la purification de nos fautes. Et la force en même temps de plus offenser le Seigneur, de mener une vie beaucoup plus sainte, de mener une vie simplement chrétienne, conforme aux promesses de notre baptême. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Miserere nostri Domine. Seigneur Jésus, meurs sur la croix.
Adoramus te Christe, benedicimus te.
Viale Santa Concepto, benedictimo Dominum.
Voilà, cette fois Jésus est dressé entre terre et ciel. Il est sur son autel, il est prêt pour le sacrifice. La victime c'est lui, le prêtre c'est lui. Quand je serai élevé de terre, j'attirerai tout à moi. Eh oui, nous sommes à lui parce qu'il est notre Créateur, mais nous sommes encore à lui parce qu'il nous a conquis, rachetés par son sang, par sa croix. Et ce matin, dans l'Évangile, on nous a rappelé que lorsque Jésus reviendra à la fin du monde, sur les nuées du ciel, il viendra avec son signe. Qu'est-ce que c'est ce signe? C'est la croix. La croix qui sera un objet d'horreur à ce moment-là pour tous ceux qui auront été les ennemis du Christ et les ennemis de sa croix. La croix qui sera une source de bénédiction et d'action de grâce pour ceux qui auront été ses amis. On ne peut pas passer à côté de la croix. Ou bien on est les amis de la croix, ou bien on est les ennemis. On bute tous contre la croix du Christ. Et c'est par la croix qu'il a sauvé le monde, et c'est par la messe qui continue le sacrifice de la croix, qui l'actualise, que toutes les générations humaines peuvent puiser les grâces du salut. Le démon le savait bien. Lui qui a réussi ce tour de force aujourd'hui, à la faveur d'un concile, de supprimer le sacrifice perpétuel, de liquider le sacrifice de la messe pour le remplacer par un nouveau rite qui fait que c'est un repas fraternel, c'est une fête, comme ils disent, comme si c'était une fête quand Jésus est mort sur la croix. Croyez-vous que c'était une fête pour la Sainte Vierge, Saint Jean, les Saintes Femmes et quelques rares amis qui étaient là? C'était la fête pour les ennemis. Pour Jésus, c'était le sacrifice. En beaucoup d'églises, aujourd'hui, la croix a été mise de côté, tout comme le tabernacle. Remercions la Providence d'avoir pu garder la Sainte Messe, d'avoir pu garder les autels et les tabernacles surmontés de la croix. C'est là que nous devons venir puiser les forces. Et en ressortant d'une messe, on doit être meilleur, parce qu'on a reçu les fruits du sacrifice de la croix. Aimer la messe. Aujourd'hui, beaucoup la manquent, rien du tout. Nous devons compenser, réparer. Aimer la messe quotidienne, si vous le pouvez. Laissez faire un tas d'autres choses. Venez vous ressourcer. Et c'est en venant à la messe que nous aurons les forces pour mener ce combat de la fin des temps et pour hâter le triomphe des cœurs de Jésus et de Marie. Et le triomphe aussi de l'Église. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Miserere nostri, Domine.
Miserere nostri.
Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix.
Amen.
Deuxième station, Jésus est descendu de la croix et revient à sa très sainte mère.
Adoramus te Christe, benedicimus te.
Priare santa concepto, benedictimus.
Enfin, Marie peut retrouver son fils. Mais il est mort. Et ce qu'elle reçoit dans ses bras, c'est un cadavre. L'âme de Jésus est partie. Parlez d'un annoncé au juste de l'Ancien Testament leur libération. Le corps est là, tout froid. et Marie peut contempler les marques de la cruauté des hommes. Le corps de son fils n'est qu'une immense plaie. Elle essaye de refermer cette plaie avec le plus d'amour possible. Elle comprend maintenant combien c'est dur pour elle d'être la mère du Rédempteur. Elle comprend qu'elle a dû enfanter, nous enfanter dans la douleur. Et qui mieux qu'elle peut comprendre toute la douleur des hommes et des femmes sur cette terre? Elle, que le Père de l'Église désigne sous le nom de Reine des Martyrs. Elle n'a pas été atteinte dans son corps, mais son âme a ressenti des souffrances plus grandes encore que toutes les souffrances des martyrs. Eh bien, Notre-Dame, Mère de l'Église aujourd'hui, voit bien la situation mieux que nous. Elle veille sur l'Église de son Fils, qui est comme crucifié, comme mis au tombeau. Et elle continue son rôle de mère. Et elle espère, plus que quiconque, elle est certaine même de la résurrection de l'Église, comme elle était certaine de la résurrection de son Fils. Regardons toujours vers Marie, surtout quand nous sommes atteints par la peine, par le deuil, par la maladie, par les persécutions. Elle nous aidera toujours à penser les plaies et à regarder au-delà des preuves vers son Fils qui a vaincu la mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Miserere nostri,
Domine.
Miserere nostri.
Que les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. 14e station, Jésus est déposé dans le tombeau.
Adoramus te Christe, benedicimus te.
Vida versa per lucem tua benedicimus
te. C'est un pharisien, Joseph d'Arimathie, qui a eu le courage, avec un autre Nicodème, de venir s'occuper du corps de Jésus et de lui donner un ensevelissement digne. Et c'est dans son tombeau à lui, personne encore n'avait jamais été mis, que Jésus est déposé. C'était le vendredi, déjà tard, ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils auraient voulu faire, car le sabbat était déjà là. Ils ont fait l'essentiel. Sans doute la Sainte Vierge aurait voulu rester dans le tombeau, mais elle allait partir comme les autres. Un peu quand nous revenons à la maison après un enterrement, c'est pas très gai, c'est pas très joyeux. Et Jésus, dans le tombeau, ne va pas connaître la corruption. Son âme va venir s'emparer de ce corps et le ressusciter glorieux. Malgré toutes les précautions qu'avaient prises les pharisiens, les grands prêtres, de rouler une grosse pierre devant l'entrée, de mettre des soldats pour veiller, tout cela sera liquidé quand Jésus sortira glorieux du tombeau. Tout cela sera mis de côté. Rien n'arrête la toute puissance de Dieu. Et c'est sur la résurrection du Christ qu'est fondée notre foi. Si Jésus n'avait fait que mourir, il aurait fait comme tant d'autres. Même s'il avait fait que mourir en héros, il aurait fait une chose magnifique. Mais il est ressuscité, ce que personne n'a pu faire. Et il est revenu à la vie, glorieux, avec un corps glorieux, apparaissant dans ses apôtres, multipliant les preuves que c'était bien lui qu'on avait crucifié et qui ressuscitait. Et il est resté quelques jours sur la terre, une quarantaine de jours avant de repartir avec son corps glorieux vers le ciel, nous préparer une place et il reviendra. Cette fois-ci, non plus dans la pauvreté de l'état de Bethléem ou dans l'horreur du calvaire, mais dans tous les cas de sa gloire, comme l'évangile de ce matin nous a rappelé. Pour juger les vivants et les morts, tous les hommes, nous serons de la partie. Et pour mettre un terme à ce monde, il sera bouleversé, secoué, transformé. Et Jésus appellera ceux qui ont cru en lui, espéré en lui, les bénis de mon Père. Venez prendre possession du royaume qui vous a été préparé dès l'origine du monde. Voilà ce pourquoi le Christ est venu, pour nous mettre en possession un jour des biens du royaume. Voilà le plan d'amour de Dieu. Et c'est dans une retraite qu'on découvre toujours mieux ce plan d'amour. Et c'est pour cela qu'on a le devoir de le dire aux autres, cela. De leur donner l'envie de venir découvrir ces richesses. Car finalement, à quoi ça sert à l'homme de connaître tant de choses? Et Dieu sait si les médias envahissent nos vies avec tant de nouvelles aujourd'hui, si on ne connaît pas l'essentiel, la bonne nouvelle. La seule et unique qu'il faut connaître, c'est que nous avons un Dieu qui est venu vivre parmi nous, mourir sur une croix pour nous sauver, et ressusciter pour nous amener avec lui auprès de son Père. Nous faisons des enfants son Père, des héritiers du royaume. Nous faisons en quelque sorte ses frères. C'est ça la bonne nouvelle que Jésus a demandé à ses apôtres à l'ascension d'aller la publier partout. C'est ça qu'ont voulu faire les missionnaires. C'est ça qui a pris le cœur de Monseigneur Lefebvre, presque au terme de sa vie, il y a 30 ans en arrière, alors qu'il était déjà à l'âge de la retraite, voyant ce désastre. Et il s'est mis courageusement à refaire, à reconstruire, et à insuffler dans l'âme des jeunes l'amour du sacerdoce, l'amour de l'Église, pour justement donner au plus d'âmes possible connaissance de cette bonne nouvelle et communiquer à ces gens les grâces méritées par le Christ dans sa passion, sa mort et sa résurrection. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Aux intentions du Pape, au cas d'indulgence. Le Pape, c'est le grand mystère d'aujourd'hui. Déjà, le prophète Daniel, bien des siècles avant la venue du Christ, avait prophétisé qu'on frapperait à la tête. Que l'ennemi s'emparerait en quelque sorte du pouvoir pontifical, qui est comme neutralisé aujourd'hui. L'Église est occupée par l'ennemi. Et ce problème du pape nous préoccupe beaucoup, mais il reste un mystère pour l'heure actuelle. Nous ne pouvons pas le résoudre, nous. Mais nous devons prier pour lui. Pour que le successeur de Pierre, un jour dégagé de ses chaînes, puisse revenir confirmer la foi de ses frères. Ça a été toujours la position de Mgr Lefebvre. Nous obéissons au pape en tant qu'il est successeur de Pierre. Et quand nous obéissons au pape, nous obéissons à tous les papes. Car il y a une continuité dans la tradition apostolique. Dès qu'il y a rupture, et c'est le cas aujourd'hui pour bien des choses, eh bien, on n'a pas besoin d'obéir, parce qu'on serait infidèle à ce que d'autres pontifes ont fait. Mystère d'iniquité, qui réclame donc, non pas des critiques, des jugements précipités, mais des prières. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre
mort. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.
Amen. Maintenant
et toujours
dans ces siècles et siècles.
Victoire,
tu règnes.
Amen. Protégez au très sage gardien de la Sainte Famille, la race élue de Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très aimant, de toute souillure, d'erreur et de corruption. Assistez-nous du haut du ciel, notre très puissant libérateur, dans notre combat contre le prince des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui la Sainte Église de Dieu des pièges de l'ennemi et de toute adversité. Accordez-nous votre perpétuelle protection, afin que, soutenus par votre exemple et par votre secours, nous puissions vivre saintement, mourir dans la grâce et obtenir la béatitude éternelle du ciel. Amen. Ô Dieu, pasteur et guide de tous les fidèles, regardez avec bienveillance votre serviteur le pape, que vous avez placé à la tête de votre Église. Accordez-lui, nous vous en supplions, la grâce de nous faire progresser dans la vertu par ses paroles et son exemple, qu'ainsi jouisse un jour de la vie éternelle avec tous ceux qui lui auront été confiés. Seigneur Jésus, pour le bien des hommes, vous avez institué une Église visible, avec des pasteurs qui la gouvernent, dispensent les sacrements et annoncent la parole de Dieu. Donnez-nous des pasteurs qui soient des chefs et des guides selon votre cœur, afin que la prudence de leur conduite, les lumières de leur doctrine et l'ardeur de leur charité gagnent à vous toutes les âmes qui ne peuvent se sauver qu'en votre nom, vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Entre mergos
Sacramentum,
ut redemptor is per fructum in nobis vitae sanctiamus. Qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
Thank you.